Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Au menu de ce journal, l'ONU alerte sur la hausse du nombre de personnes ayant besoin d'aide humanitaire au Mali, la protection des civils déplacés par les violences au cœur de l'action du HCR au Sahel, dernier bilan sur l'épidémie d'Ebola en RDC avec l'OMS, et en dossier, nous verrons avec l'UNESCO comment les bonnes pratiques liées à la culture et à la nourriture contribuent aux objectifs de développement durable. Un Malien sur cinq a besoin d'aide humanitaire. C'est l'alerte lancée vendredi par OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Jens Larke, porte-parole d'OCHA à Genève, au micro d'Alpha Diallo, il explique les raisons de la crise humanitaire au Mali et la réponse déployée sur place malgré le manque de financement.
Actuellement, on compte 3,9 millions de personnes. C'est une augmentation de 22% depuis le début de l'année qui ont besoin d'aide. On a aussi vu le nombre des personnes déplacées dans le pays doubler, presque 170 000 personnes aujourd'hui. Derrière ces tendances, ce sont deux choses. Premièrement, la violence intercommunautaire au centre du pays qui a vu une augmentation au cours de ces derniers mois. Et une augmentation dans le nombre des personnes qui se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire. Nous avons notre programme humanitaire qui a aussi augmenté en termes de financement dont on a besoin. On a aujourd'hui besoin de 324 millions de dollars. Le niveau de financement est seulement à 30%. Mais avec ces 30%, on a pu atteindre 500 000 personnes avec une aide humanitaire, presque 150 000 personnes avec de l'eau potable et on a bien pu traiter 150 000 enfants pour la malnutrition.
Au Sahel, l'escalade de la violence a engendré des déplacements massifs de population. Lors d'un dialogue régional organisé à Bamako par le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les gouvernements de la région ont affirmé leur engagement à protéger les personnes déplacées et la nécessité de trouver des solutions durables. Romain Desclou est porte-parole du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Il rapporte les témoignages de souffrance des réfugiés et des déplacés.
Les réfugiés, les déplacés internes, nous font le récit de violences, d'attaques, de coups, de blessures, de meurtres, de viols, de violences sexuelles, de violences intercommunautaires, de violences interethniques. Ils parlent de pillages, de vols de bétail, d'extorsions, d'attaques contre les marchés qui les empêchent d'aller acheter la nourriture qui leur est essentielle ou de vendre ces biens qui leur permettent d'avoir un revenu. Ils parlent d'attaques contre les centres de santé, contre les écoles, contre les enseignants. Autant que les élèves. C'est un ensemble de violences qui affectent de manière disproportionnée les femmes et les jeunes filles et les jeunes. Tel est le récit de ces violences que nous entendons au quotidien et la raison pour laquelle il est essentiel de mettre la protection au centre de la réponse à l'insécurité pour les besoins des personnes forcées de fuir dans le Sahel, pour trouver des solutions durables qui leur assurent la dignité, la sécurité à elles, mais également aux communautés qui les accueillent. Au Sahel, les principaux défis de la protection sont multiples. En premier lieu, il s'agit déjà de pouvoir accéder aux personnes qui sont forcées de fuir pour pouvoir apporter cette assistance essentielle dont ils et elles ont besoin. Au-delà, il faut nous permettre aussi de donner une chance à ces personnes, mais également la chance de pouvoir se reconstruire. Et enfin, il faut également voir qu'il faut faire en sorte que la protection soit prise en compte dans toutes les réponses.
La République démocratique du Congo est toujours confrontée à une importante épidémie d'Ebola. L'épidémie est surtout localisée dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri. Avec plus de 650 personnes en RDC, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, poursuit ses efforts pour enrayer la propagation du virus. En date du 11 septembre, le nombre de nouveaux cas est en diminution par rapport au mois d'avril dernier. Plus d'explications avec Tariq Jazarevitch, porte-parole de l'OMS.
Pour la date de 11 septembre, donc on est à 3099 cas qui comprennent 2077 morts et à jour de 11 septembre, donc on est à 941 personnes guéries d'Ebola. Donc on voit une transmission qui continue, qui est stable, qui est soutenue. Donc on est à peu près 80 cas par semaine, ce qui est une baisse par rapport aux semaines où on avait vraiment plus de 120 cas, c'était au mois d'avril. Mais donc on voit que malheureusement la transmission continue d'une manière stable et nous on continue à faire des mesures qui sont nécessaires. Pour le moment, donc, sur le territoire de DR Congo, on utilise le vaccin qu'on a utilisé depuis le début. C'est la décision des autorités nationales s'ils vont introduire d'autres vaccins. L'OMS et donc notre comité d'experts sur la vaccination sur Ebola a émis des recommandations. Et puis, comme c'était toujours le cas, donc c'est les autorités nationales qui mettent en place des protocoles pour l'utilisation des vaccins. Donc, pour le moment, il y a un seul vaccin qui est utilisé.
Le Forum mondial de l'UNESCO Culture et nourriture, stratégie innovante pour le développement durable, a pris fin à Parme en Italie ce vendredi. Ce forum a permis le partage de bonnes pratiques liées à la culture et à la nourriture qui peuvent apporter des solutions aux défis majeurs de la croissance démographique, du changement climatique, de l'insécurité alimentaire et contribuer à une agriculture et une pêche durables. Pour mieux comprendre comment la nourriture peut être au cœur d'autant de solutions, Cristina Silvero a joint à Parme Ernesto Otton, le sous-directeur général à la culture de l'UNESCO.
La nourriture, bien sûr, c'est un élément clé de nombreuses cultures. Elle est au cœur de plusieurs interactions sociales, ainsi que des traditions, des savoir-faire qui sont transmis de génération en génération. On parle de la nourriture et la manière dont on la prépare, puisqu'on parle de ça aussi au Forum de Parme. C'est une expression importante de la créativité humaine. C'est pour ça qu'un des systèmes que nous avons inventé, des villes créatives, de la gastronomie, essaie de reconnaître aussi ce qui est autour de l'écosystème complet de la nourriture. Donc finalement, pour le développement durable, on estime quand même qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui actuellement dans le monde n'ont pas d'accès régulier à des alimentations saines et nutritifs. Donc ça devient un problème. Et bien sûr, un tiers de toute la nourriture produite dans le monde qui est gaspillée ou qui est mal utilisée, selon la FAO. Donc bien sûr, l'expansion des terres agricoles est aussi souvent le principal facteur à l'origine de la déforestation, et puisque l'UNESCO est aussi en charge des sites du patrimoine mondial et des géoparcs, ça nous pose un problème pour le futur et pour ce qu'on est en train de léguer aux futures générations.
Alors comment est-ce que, par exemple, si on prend l'un des défis comme le changement climatique, comment est-ce que porter attention à la culture et la nourriture peut mitiger ou aider à lutter contre le changement climatique?
Vous l'avez bien remarqué, si on prend certains des facteurs qui aujourd'hui nous posent des problèmes majeurs au niveau global, bien sûr, l'UNESCO, ce qu'il essaye de mettre en avant, c'est voir de quelle manière les bonnes pratiques ou les expériences réussies dans certaines parties du monde peuvent être partagées pour les autres États membres. Et c'est-à-dire des belles expériences qu'on a déjà eues en Nouvelle-Zélande, au Pérou, en Malaisie, au Ghana ou au Liban, peuvent être mises en avant pour que d'autres États membres qui en ce moment sont en train de souffrir des conséquences, dans ce cas particulier, du changement climatique, peuvent prendre des exemples pour de politiques publiques qui soient mises en place pour justement essayer de contrôler ou de prévoir certains désastres qui pourraient arriver au niveau de l'alimentation, de l'agriculture ou des processus. Et il y a un autre facteur important, c'est que surtout pour les communautés indigènes, par exemple en Amérique latine ou dans d'autres parties du monde, les connaissances et les pratiques traditionnelles sont souvent soit oublié ou soit un peu abandonné. Et ce qu'on essaie, c'est justement de voir de quelle manière des communautés qui vivent dans des territoires depuis plus de 5-10 siècles ont pu résoudre certains problèmes qu'aujourd'hui, avec les changements qui sont en train de se produire, nous ne savons pas comment les contrôler. Donc je crois que tout ce que fait l'UNESCO, c'est aussi pouvoir permettre que l'histoire se remette en place pour que le patrimoine vivant qui aujourd'hui est dans ces cultures puisse être pris comme exemple pour pouvoir les traduire dans notre vie contemporaine et globale.
Est-ce que vous avez des exemples concrets? Vous avez mentionné les autochtones en Amérique latine, mais vous avez aussi mentionné des politiques avérées au Ghana, au Pérou.
Oui, enfin, il y a pas mal d'exemples. Par exemple, pour la gastronomie, physiquement, ce que nous avons en ce moment, c'est 26 villes créatives de la gastronomie qui aujourd'hui sont en réseau pour voir de quelle manière, par exemple, les situations de crises qui se produisent entre les zones rurales et urbaines. Aujourd'hui, nous avons pu partager avec ces 26 villes et avec une trentaine de villes qui veulent intégrer ce réseau des expériences vis-à-vis d'une agriculture saine, un prix juste, pour vous donner un exemple. C'est-à-dire de quelle manière on assure une production locale de bonne qualité qui puisse arriver justement dans des zones urbaines où aujourd'hui ils n'y ont pas d'accès. Et quand nous parlons de villes, on ne parle pas seulement de grandes métropoles. Hein. Il y a des villes qui ont 10 000 habitants, 12 000 habitants et qui sont des exemples pour le monde qui peuvent être bien sûr reproduites. Ça, c'est à l'échelle de la gastronomie. Mais bien sûr, c'est dans tous les exemples que nous avons. Par exemple, les gestionnaires de sites naturels aujourd'hui sont très préoccupés de quelle manière le patrimoine vivant qui vise les plantes médicinales aujourd'hui peuvent être mis en avant pour pouvoir donner des solutions à certaines communautés qui n'ont pas d'accès aux médicaments chimiques et qui prennent en charge les médicaments traditionnels ou les pratiques de ces médicaments traditionnels.
Fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.